Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Et un phénomène inquiétant est en train de se développer. Des soirées musicales qui se développent notamment dans la région parisienne. Et derrière ces soirées, il y a un véritable marché de la drogue. Ces soirées s'appellent les soirées rêves.
Psychiatrique partie, rendez-vous à partir de 23h30 à la gare RER de Massy-Balaiseau.
À partir du moment où une opposition institutionnelle s'est créée et où la fête techno a cherché à se maintenir contre les pressions, elle a bénéficié de l'aura de la transgression et de la dimension libertaire. Elle prend même parfois une allure de guérilla. En conséquence, les aspects initialement secondaires engendrés par l'illégalité des rêves devinrent primordiaux.
Périph' extérieur, vous venez par le périph' extérieur, vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu, à droite, direction hippodrome, première à gauche en suivant le lac, toujours tout droit, puis à l'hippodrome, vous enfoncez dans la pince, porte de Boulogne. Ok, grosse soirée là !
Dans Paris, faire une soirée comme ils l'ont fait dans un lieu classé, et en plus, le nombre de participants, c'était pas une dizaine, hein, je sais pas combien il y en avait, mais plusieurs centaines, voire quelques milliers, bon, c'était un exploit.
Et dans les vapeurs du soir, les jeunes gens dansent au son des tam-tams du crépuscule. Et dans les vapeurs du soir, les jeunes gens dansent au son des tam-tams du crépuscule. Des danses mi-folkloriques, mi-guerrières. Des danses mi-folkloriques, mi-guerrières. Des danses mi-folkloriques, mi-guerrières.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette spéciale Histoire Techno qui s'ouvre avec un extrait de ce formidable documentaire consacré au Hérétique Système. La techno, comme beaucoup de musique, est une musique de la mondialisation, sans doute née dans les années 70-80 entre l'Allemagne et les USA, et plus particulièrement dans les villes de Détroit pour la techno et Chicago pour la house music. Des musiques inventées sur des boîtes à rythme d'occasion japonaises, des instruments mis au rebut, la techno, son révolutionnaire qui, depuis près de 30 ans, bouleverse le monde de la musique et les pistes de danse. La techno, une musique dont l'histoire est intimement liée à celle de drogue de synthèse, est-elle seulement une musique de ghetto purement festive, devenue un produit de consommation de masse, une musique récupéré par le système capitaliste? On évoque aujourd'hui cette histoire techno en pillant littéralement cet excellent article d'Antoine Calvino publié dans Le Monde Diplomatique de juin 2014. L'auteur tente ici de mettre en lumière des aspects politiques dans l'histoire de la techno, qui a priori n'est pas une musique très politique. Et pour illustrer cette saga, voici Bastien, alias BSN, l'électron libre, DJ et chroniqueur pour le webzine JuggerRecords.com, avec quelques vinyles historiques. Salut Bastien.
Salut.
Et puisque le berceau de la techno, c'est la ville de Détroit, déjà berceau de la soul, de la Motown, notre ami prof d'histoire géo Cédric vous emmènera tout à l'heure faire un tour dans la Détroit d'aujourd'hui, une ville sinistrée, en banqueroute. Détroit ne répond plus. Mais pour l'heure, retour trois décennies en arrière, après la fin des utopies hippies des années 60, après la crise désenchantée des années 70, c'est le cauchemar ultra-libéral des années 80, incarné par Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Ces deux-là vont détruire, endetter, appauvrir les sociétés dont ils ont la charge, et pourtant, les gens font la fête. Voilà une mise en ambiance de l'époque avec ce titre monstrueux de 1987. L'Angleterre de Thatcher, de la crise, du chômage, a, depuis quelques années, découvert la house music venue de certains ghettos américains. 1987, la house britannique a son tube mondial.
Il y a 50 ans, les sorciers dirigeaient les paysans au rythme des tam-tams sacrés. Tam-tam sacré, tam-tam sacré.
Et dans les vapeurs du soir, les jeunes gens dansent au son des tam-tams du crépuscule.
Des danses mi-folkloriques, mi-guerrières.
Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête.
Et dans les vapeurs du soir, les jeunes dansent au son des tam-tams du crépuscule. Des danses ni folkloriques, ni guerrières.
Au rythme des tam-tams sacrés. Tam-tam sacré, tam-tam sacré.
On n'est pas tellement là pour changer la société ou seulement pour l'embellir. On n'est pas tellement là pour changer la société ou seulement pour l'embellir.
Au rythme des tam-tams sacrés.
La société nous aime pas, les gens. Il y en a qui les aiment, c'est vrai. Il y en a qui les aiment pas.
Une bande de bousons noirs a accepté de sortir de son isolement. À cause de cette attitude nouvelle, nous sommes allés voir cette bande de garçons, dont un quart environ se trouve en liberté surveillée.
Et dans les vapeurs du soir, les jeunes dansent au son des tam-tams du crépuscule. Des danses ni folkloriques, ni guerrières. Des danses ni folkloriques, ni guerrières.
Au rythme des tam-tams sacrés.
Pump up the volume, titre extraordinaire signé Mars dans l'Angleterre de 1987 pour démarrer le piratage par lecture de Pulsation Techno, article d'Antoine Calvino publié dans Le Monde Diplomatique de juin 2014. Alors Bastien, qui est Antoine Calvino ?
Et Antoine Calvino, c'est un journaliste qui a démarré à la fin des années 90 sous la houlette de Trax.
Trax, le magazine papier, pas l'émission de télé.
Voilà, le magazine papier qui existe toujours. En tout cas, alors je souhaite bonne chance pour la suite, Trax. Il y a de moins en moins d'abonnés et de moins en moins...
Tu veux dire qu'aujourd'hui, Trax a le même papier que Le Monde Diplomatique, c'est ça ?
Peut-être au niveau de l'économie, ça doit être pareil aussi.
Ce qui n'empêche pas que Le Monde Diplomatique est un excellent journal. Nous allons vous en faire la démonstration en piratant cet article d'Antoine Calvino, qui s'introduit avec ce chapeau. Les événements musicaux de masse ne produisent pas seulement des moments d'abandon ou de consommation. La contre-culture des rêves et les fêtes techno-géantes portent aussi l'utopie politique des zones autonomes temporaires. Fin juin, un ancien aérodrome de l'Armée Rouge, situé au nord de Berlin, accueillera l'édition annuelle du Fusion, un festival techno au principe anticapitaliste affirmé, qui fait référence en Europe. Ces 60 000 participants prévenus par le bouche à oreille ont réservé depuis longtemps, car on joue à guichet fermé et les organisateurs ne cherchent pas à communiquer dans la presse. Pendant 4 jours de, ouvrez les guillemets, vacances communistes, comme le veut la présentation, ils auront accès pour 80 euros aux meilleurs artistes du genre. Ceux-ci seront répartis entre une vingtaine de systèmes sonores, sound systems, raccordés par des allées portant des noms de révolutionnaires et dépourvus de publicité. S'y côtoieront des cirques, des cabarets et des stands altermondialistes, généralement perçus comme strictement festives, vides de sens du fait de son absence de parole, voire aliénantes en raison de ses pulsations mécaniques, la techno aurait-elle une conscience ? Demande Antoine Calvino. Depuis sa création il y a 3 décennies, cette contre-culture porte assurément un message qui dépasse la simple affirmation hédoniste, fortement associée à l'image médiatique des rêves, ces drôles de rassemblements autour d'une musique électronique qui enflammèrent l'Europe au tournant des années 90. Ces fêtes libres se déroulent alors sur un site inédit, conférant à l'événement un caractère exceptionnel. Contrairement à l'usage dans les concerts, la figure centrale ne se trouve pas sur la scène, mais sur la piste de danse. Les participants font pendant toute une nuit et parfois davantage l'expérience commune d'une transe provoquée par l'abandon à un puissant rythme répétitif, souvent amplifié par l'extasie, une amphétamine procurant euphorie, empathie et sensibilité exacerbée à la musique. Bastien, j'interromps ici la lecture de l'article d'Antoine Calvino. Il m'est arrivé de tomber sur des gens qui sont fous de musique électronique, qui n'écoutent que ça et qui n'ont jamais touché à un cachet d'extasie de toute leur... Pour moi, la musique électronique, c'est de la musique de drogués, quoi. Or, il existe des gens qui aiment ça, sans prendre de drogue.
Ouais. Alice Goffert aussi prenait pas de drogue quand il est en soirée, avec Étienne de Crécy, pour anecdote.
J'ai des copains mauvaise langue qui n'aiment pas la musique électronique et qui disent, de toute façon, c'est de la musique de merde, il faut être drogué pour aimer ça.
On voit de plus en plus de drogue dans les soirées techno et dans les soirées rave. Hein. Mais ça, c'est la mauvaise évolution des drogues qui veut ça.
On reprend la lecture de Pulsation Techno, l'article d'Antoine Galvino, Monde Diplomatique, juin 2014. Ainsi se crée depuis les années 80, loin des formes marchandes habituelles du divertissement culturel, une bulle de lâcher-prise, sorte de terrain de jeu du hors-temps, où les différences sociales semblent abolies. Si les artifices employés sont évidents, les émotions ressenties n'en demeurent pas moins sincères, et l'expérience s'avère si bouleversante qu'elle sert de projection à une sorte d'utopie sociale, diversement déclinée selon les pays touchés par le phénomène. Tout commence au milieu des années 1980, lorsque la techno naît de la rencontre du funk et de l'électropop européenne dans la communauté afro-américaine de Détroit. Dans cette ville ruinée par la déroute de l'industrie automobile, beaucoup d'artistes, en particulier ceux du label Underground Resistance, s'inscrivent dans la lignée des engagements militants de leurs prédécesseurs de la Motown Records. Cette compagnie de disques, également fondée à Détroit, fut marquée par des personnalités comme Marvin Gaye ou Stevie Wonder qui se politisèrent à la fin des années 60 après les émeutes consécutives aux assassinats de Martin Luther King et Malcolm X.
Awesome 84, a tripped out prototype of your musical future, the sound of sounds to come.
Alors l'anecdote, c'est que ces gars de Détroit qui écoutaient de la musique électronique, il y en avait une seule, une radio à Détroit, je sais plus comment ça s'appelait, et il y avait l'émission Electrify Mojo, et c'était une émission psychédélique, esprit totalement futuriste à la sonora, et derrière de la musique new wave, et de l'appeler électro, mais des trucs très très bizarres. À croire que beaucoup d'artistes qui écoutaient la même émission à la même heure, cette émission-là, Electrify Mojo, a été un déclenchement énormissime pour De Grande Distance, donc, et puis bien avant, Derrick May, Roland Kins, Kevin Sanderson.
Cette émission, elle s'appelait, rappelle-nous,
Electrifying Mojo, qui était aussi le nom du DJ.
Une émission de radio de Détroit qui aura contribué à l'émergence du collectif Underground Resistance.
Welcome to Awesome 84, a
troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Les artistes de la techno naissante, donc on est toujours à Détroit, hein, s'inspirent aussi du groupe de rap Public Enemy et de sa posture radicale de lutte contre l'establishment blanc des années Reagan. Leur leader, Chuck D, était un exemple pour nous, se souvient le musicien et disc jockey DJ Robert Hood. Notre musique a beau être instrumentale, nous faisions passer un message militant très clair via les titres de nos morceaux, nos pochettes de disques et notre discours. Qui est Robert Hood, Bastien ?
C'est le co-créateur de Underground Resistance avec Mike Banks et Jeff Mills. Collectif Underground Resistance qui existe toujours, d'ailleurs, qui continue à faire des dates et des tournées.
Alors, je crois que Jeff Mills réside en France, en fait, il est très souvent en France.
Ouais, il a une résidence secondaire à Paris, tout comme Carl Craig. La musique électronique est bien acceptée dans des lieux, on va dire, un peu hype sur Paris.
Manifeste du label Underground Resistance. Underground Resistance est le label d'un mouvement. Un mouvement qui veut le changement par la révolution sonore. Nous vous exhortons à rejoindre la résistance et à nous aider à combattre la médiocrité des programmations sonores et visuelles destinées aux habitants de la Terre. Ces programmations entretiennent la stagnation des esprits, édifient un mur entre les races et s'opposent à la paix mondiale. C'est ce mur que nous allons détruire. En puisant dans l'inépuisable potentiel énergétique du son, nous allons détruire ce mur aussi sûrement que certaines fréquences brisent le verre. La musique techno se base sur l'expérimentation. C'est une musique pour le futur de la race humaine. Sans cette musique, il n'y aura ni paix, ni amour, ni espérance. La techno a permis à des personnes de toute nationalité de partager du plaisir ensemble sous un même toit, simplement par le son. N'est-il pas évident que la musique et la danse sont les clés de l'univers ? Les tribus soi-disant primitives le savent depuis des milliers d'années. Nous encourageons nos frères et nos sœurs de l'underground à créer et transmettre leurs timbres et fréquences sans se soucier du fait que leurs instruments soient ou non primitifs. Transmettez ces fréquences et semez la confusion chez les programmateurs. Longue vie à l'underground. Donc les gens d'Underground Resistance, les DJ d'Underground Resistance mixaient dans le noir avec juste une pauvre ampoule au-dessus d'eux et encore avec des cagoules, ce sont des noirs, hein, faut quand même le rappeler, donc des noirs avec des cagoules qui mixent dans le noir, anonymat complet, etc. Donc tout ça pose un décorum, mais aussi parce que Détroit, bah, c'est la ville de la Motown, c'est une ville où il y a une profusion de musique et que les mecs ils étaient tricards. Les barons locaux de la musique de Détroit n'avaient pas tellement envie de voir cette musique électronique de merde apparaître et machin, et que les gars étaient obligés de jouer masqué parce que bah il y avait les tenants du blues, du rock, de la Motown, du machin qui leur cherchaient des noises, quoi, qui les empêchaient de s'imposer. C'est vrai ça ? Ça te paraît collé cette histoire ?
Oui, enfin c'était ils vivaient dans une misère à l'époque. Je pense que ces artistes-là, à un moment donné, il fallait qu'ils créent, quoi. Il fallait, sinon ils allaient péter un boulard, enfin tout simplement. On sait que dans le rap, il y a pas mal d'artistes à New York. Le rap, ça se voit la vie, parce que sinon ils auraient fini par être dealers ou dévaliser une banque, puis finir mal. Enfin voilà, quoi. Donc à Détroit, ouais. Cette période-là, ça a été de pire en pire. You Are donc a donné un message qui était clair. C'est la musique prime avant tout, en n'oubliant pas que cette musique a été créée dans une ville qui a une souffrance sociale importante.
Détroit, Michigan, nord-est des USA, berceau de bien des musiques. Détroit, la ville du moteur, d'où le nom du célèbre label Motown, Motor Town. Détroit, une ville construite autour de l'industrie automobile. Détroit, ville aujourd'hui en faillite depuis que les multinationales américaines ont délocalisé leurs usines dans des pays où les travailleurs coûtent moins cher, car ils y ont moins de droits que les travailleurs américains. Et à Détroit, beaucoup de ces ouvriers américains au chômage sont des noirs. Pour vous faire une idée de ce que peut être une ville américaine qui implose de chômage et de pauvreté, regardez l'excellent et terrifiant documentaire intitulé « Roger et moi » que Michael Moore a tourné dans sa ville natale, à Flint, Michigan, en 1989. Aujourd'hui, Détroit est en banqueroute, Détroit ne répond plus. C'est le titre de cet article du Monde diplomatique d'octobre 2013. Faillite municipale en série aux États-Unis. Nous avons perdu Détroit. Un article étudié par Cédric. Empêtré dans un nouveau bras de fer budgétaire entre le président et le Congrès, Washington abandonne les collectivités locales. Pourtant victime de la désindustrialisation, la ville de Détroit a déjà fait faillite en juillet dernier. Et quelques mois plus tôt, le comté de Jefferson, en Alabama, avait connu le même sort à cause d'emprunts toxiques. Du Rhode Island à la Californie, les banqueroutes municipales s'enchaînent, révélant les carences des politiques urbaines. Un article de John Nichols. Un article à savourer tout en ayant à l'esprit que le contribuable américain dépense chaque jour 2 milliards de dollars pour entretenir la puissance impériale américaine.
Alors, nous avons perdu Détroit fait écho à un poème de Jill Scott Heron, un poète et un jazzman américain, qui, alors que la ville de Détroit était menacée par l'explosion d'une centrale nucléaire en 1966, avait écrit, hein, au bout de cette crise qui s'était heureusement bien finie, « Nous avons failli perdre Détroit ». Et là, effectivement, Détroit est perdu. Alors, Détroit est perdu. Effectivement, la banqueroute, hein, de la ville a été prononcée, puisqu'elle avait accumulé 18,5 milliards de dollars de dettes. Elle s'est donc mise en cessation de paiement. Alors le cas de Détroit n'est pas isolé, hein, puisque si on prend l'ensemble des collectivités publiques, on en est rendu à 3 700 milliards de dollars de dettes cumulées. Alors la conséquence, ce sont des ramassages d'ordures devenus très irréguliers, la fermeture de postes de police à partir de l'après-midi. Il faut plutôt se faire agresser le matin, parce qu'après, c'est pas bon. L'éclairage public a été réduit, le réseau de bus est complètement atrophié. Petite note un peu drôle dans cet article qui ne l'est pas. Les pompiers n'avaient plus de papier WC. Et donc, une entreprise, très généreusement, a fait un acte de mécénat très intéressant puisqu'il a livré 70 000 rouleaux de papier WC aux pompiers.
Donc, c'est vrai que tu as annoncé qu'il mettait de l'éclairage, mais que pendant la journée.
Ouais, ça aurait pu être. Alors, le gouverneur républicain du Michigan a décidé de retirer les prérogatives aux élus et de nommer un administrateur financier d'urgence qui obtient tous les pouvoirs. Donc, bonjour la démocratie, c'est-à-dire que les autorités légalement élues ont perdu leur pouvoir au profit d'un technocrate qui a tous les pouvoirs financiers puisqu'il peut licencier les employés municipaux, privatiser tout ou partie des services publics et même changer les conventions collectives des salariés. Des pouvoirs extrêmement étendus, supérieurs à celui du maire. Et dans le cadre de la procédure de faillite qui se met en place, on voit se profiler des solutions pour réduire les coûts, consistant à ne plus verser leur retraite aux employés municipaux, dont les régimes de retraite dépendent de la mairie. Ceci va entraîner des problèmes de consommation en cascade, puisque bien sûr, si on retire les retraites aux anciens salariés de la ville, ça va poser des très gros problèmes. Alors, ce cas de Détroit est le plus emblématique, mais il est loin d'être le seul. Ainsi, par exemple, la petite ville de Stockton, 300 000 habitants, a licencié 25% de ses policiers, 30% de ses pompiers et 40% de ses employés administratifs. Donc, ce qui est totalement insoutenable en termes de fonctionnement. Et le papier évoque effectivement la ruine, rien que dans le Michigan, de 5 municipalités et de plusieurs comtés pédagogiques qui ont fait faillite. Alors, les républicains ont dénoncé la mauvaise gestion de la mairie. Et à chaque fois, on revient toujours sur cette idée que ça serait les élus qui seraient coupables et aussi les citoyens qui auraient élu des gens corrompus ou incapables. Sauf que quand on regarde clairement les choses... C'est pas ça la vraie cause. Ce sont des causes à la fois géographiques et économiques. Les centres-villes américains ont perdu une large partie de leur population. C'est particulièrement vrai dans le quart nord-est des États-Unis, puisque Détroit a perdu 1 million d'habitants depuis 1960, soit près de 50% de sa population, ce qui n'est pas rien. Et deuxième élément, ce sont les transferts d'entreprises des centres-villes vers les périphéries. Et donc on voit à côté d'une ville-centre en faillite, des villes périphériques qui, elles, se portent très très bien. Pourquoi ? Parce qu'elles recueillent la population et elles recueillent également des emplois manufacturiers. Par exemple, si on prend entre 1995 et 2010, la municipalité de Détroit a perdu 52% de ses emplois manufacturiers. Alors ceci est lié à un phénomène de long terme de transfert des entreprises vers les périphéries et bien sûr aussi à la crise qui frappe le pays depuis 2008. Alors face à cette situation d'urgence, le Congrès rechigne à donner de l'argent. On peut s'interroger sur ces hésitations du Congrès, puisque l'article rappelle que le Congrès a donné 787 milliards de dollars aux banques qui ont provoqué la crise de 2008. Alors, l'attitude des républicains semble relativement logique d'un point de vue politique, dans le refus.
C'est pour faire chier Obama qui a osé faire passer une réforme du système de santé.
Voilà, c'est un processus de blocage, puisque la plupart de ces mairies de centre-ville sont plutôt, par leur électorat populaire, des mairies démocrates. Et donc, effectivement, c'est un bon moyen pour eux de mettre les démocrates dans la panade. Par contre, les élus démocrates sont aussi extrêmement hésitants. Alors là, ça peut paraître plus ambigu. On peut y voir là une corruption du libéralisme qui frappe également les démocrates et qui ont abandonné tout sens de la logique de l'État. Alors, toutes ces mairies appellent à l'aide de la Fed, la banque centrale américaine, pour tenter d'obtenir des prêts pour boucher les trous et essayer de remettre à flot les comptes de leur ville. Mais là aussi, la Fed traîne un petit peu les pieds. Elle voudrait bien que ce soit le Congrès qui le pousse et le Congrès lui renvoie la main en lui disant « bah non, faites votre travail ». Donc faillite en cascade. Alors aujourd'hui en Europe, on est quand même relativement protégé par des systèmes de péréquation. Cependant, les baisses considérables de subventions faites par l'État aux collectivités publiques dans le cadre de la réduction des dépenses laissent augurer des jours difficiles pour les collectivités publiques qui ont de plus en plus de charges à gérer au quotidien.
Et a fortiori si on continue à laisser des milliards d'euros s'évaporer dans les paradis fiscaux. «
Merci à Cédric pour cette reprise de Détroit ne répond plus, article du Monde diplomatique d'octobre 2013, avant de revenir à cet autre papier, Pulsation Techno, d'Antoine Calvino. Vous êtes toujours à Détroit, à la fin des années 80. Détroit, la ville du légendaire collectif Underground Resistance, alias UR. Final Frontier, on est en train d'écouter un titre du collectif Underground Resistance 1991. Pourquoi t'as choisi celui-là, Bastien ?
Parce que ça amène au futur, ça amène à une autre idée de la conception musicale. Surtout ça, Final Frontier, le titre parfait de ce qui est la techno, ce n'est pas une musique violente au final, c'est une musique qui va vraiment, influencée par Philip K. Dick, une musique qui va vers un autre univers, vers une autre perception des sons.
Et sinon, tu me disais Underground Resistance, enfin des musiciens d'Underground Resistance, t'en as vu récemment sur scène et c'est à l'occasion un vrai groupe.
C'est un vrai groupe, ouais. Oui, ouais, c'est un vrai groupe. Un saxophoniste, deux claviers, un DJ, donc qui quand même fait un DJ set entre les deux. Mais c'est un vrai groupe, ça joue, c'est la grande classe encore, ils sont toujours là.
C'est un mec qui doit avoir une cinquantaine bien tapé, quoi.
50, 55 ans, quoi. Ils ont toujours une jeunesse qui est incroyable, quoi. Ça fait tellement trembler le sol de l'Institut du Monde Arabe quand j'ai vu au Weather. C'était le sol tremblé dehors.
Ce sera finalement les Européens et plus particulièrement les Allemands qui contribueront à leur renommée et à les sortir de Détroit. Si j'ai bien compris l'histoire qu'on m'a racontée, les Allemands ont cru en fait que la musique de Underground Resistance était en train de faire un carton monumental à Détroit, que c'était le truc de l'époque, et donc, voulant être dans la vague, les Allemands ont fait venir les artistes d'Underground Resistance, qui en fait étaient complètement anonymes et très groupusculaires à Détroit, et c'est finalement en Allemagne que Underground Resistance, si j'ose dire, a fait carrière, s'est fait connaître, etc., sur une sorte de nouvelle grande escroquerie du rock'n'roll.
Et c'est ça ce qui est marrant, parce que dans l'émission de, donc, radio, Electrify Mojo, il passait des trucs de Kraftwerk. Kraftwerk, il faisait une musique d'électronique, pop, comme Trans Europe Express, qui était un petit peu genre de musique sans fin, synthétique, comme ça, à écouter dans le train et tout. Quand c'est arrivé à Détroit, et donc y a pas mal de personnes qui écoutaient cette émission de radio, qui voulaient avoir d'informations, Kraftwerk, waouh, un groupe qui fait une musique qui nous ressemble, putain, des Européens, ça doit être des Blacks aussi, comme nous, le même esprit et tout. Et quand Kraftwerk est arrivé à Détroit, c'était trop drôle, enfin, ce que j'ai pu lire, l'étonnement des Afro-Américains, parce qu'ils pensaient que c'était un groupe noir européen, qu'on le groove comme eux, quoi. Donc,
les Afro-Américains noirs de Détroit étaient persuadés que les musiciens de Kraftwerk étaient des noirs comme eux.
Oui, parce qu'il y avait un groupe.
Ils ont dû être surpris quand on les voyant arriver. Ouais.
Un groupe qui sonnait comme un groupe bien sec, comme ce qu'on n'entendait pas auparavant, quoi, sauf dans la musique afro-américaine, donc électronique. Bon, il y avait très peu de morceaux, mais.
Tu m'ouvres des perspectives là, parce que je pensais pas trouver une dimension africaine dans l'œuvre de Kraftwerk, effectivement dit comme ça.
Surtout dans la rythmique, c'est ça qui a étonné en fait les artistes de Détroit. Et après, en 89, quand des artistes allemands et puis le Trésor font venir ces artistes de Détroit qui peut-être pour la première fois jouent en Europe... L'Allemagne a été Détroit, les gens qui écoutent une émission de radio, Kraftwerk, la musique synthétique et un peu New Wave allemande, hop, ils hallucinent sur ce son-là. Les Allemands les appellent en 89 en disant bah, on veut vous voir parce que cette musique-là, on voudrait la faire reconnaître au grand public.
La suite de l'histoire, c'est qu'effectivement, les Allemands qui ont fait monter Underground Resistance, UR, finissent par se rendre à Détroit et se rendent compte, une fois arrivés à Détroit, que, en fait, contrairement à ce qu'ils croyaient, que Underground Resistance est complètement groupusculaire, que personne n'aime cette musique et qu'ils ont été bluffés. Mais du coup, l'histoire de Underground Resistance est quand même lancée.
Avant Underground Resistance, il y a eu ces trois artistes, Derrick May, Roland Kings et Kevin Sanderson, qui ont créé une musique qui venait de nulle part, influencée par les romans de Philip K. Dick.
Et Kraftwerk.
Ils avaient besoin de rêver, en fait. Je pense que c'est, voilà, c'est une musique qui a été créée sur le rêve et sur des, peut-être des peurs. Après, les titres ne sont pas anodins, il y en a un qui s'appelle Final Frontiers. Toujours il y a des titres qui sont liés à l'espace-temps, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est musique du futur. Ça a toujours été une musique du futur, ça reste une musique de futur.
Rappelle, si vous le connaissez pas encore, que Philip K. Dick est le plus grand auteur de science-fiction. C'est notamment à partir de certains de ses romans qu'ont été tirés les adaptations et les films Total Recall, Blade Runner et Minority Report. Les pulsations de Station Rider E, un morceau de Robert Hood,
co-créateur de Underground Resistance et puis qui a lancé le mouvement Minimal en 93 avec l'album Minimal Nation. Un morceau carré, sec, groove, urbain, pas de chichi. C'est le sens propre du minimal.
Et dans les vapeurs du soir, les jeunes gens dansent au son des tam-tams du crépuscule. Des danses mi-folkloriques, mi-guerrières.
Et la possession commence.
Au rythme des tam-tams sacrés.
La communauté, c'est vivre ensemble et partager un but commun. Quel est votre but commun ?
L'amour.
Au rythme des tam-tams sacrés.
L'amour.
La recherche du bonheur.
L'amour.
Au rythme des tam-tams sacrés.
On n'est pas tellement là pour changer la société ou seulement pour l'embellir. On n'est pas tellement là pour changer la société ou seulement pour l'embellir.
Et la possession commence.
Au rythme des tam-tams sacrés.
Et dans les vapeurs du soir, les jeunes gens dansent au son des tam-tams du crépuscule.
Et la possession commence.
Au rythme des tam-tams sacrés.
Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte, elle monte, elle monte. Par les mains, les bras, les épaules et la tête.
On revient, si vous voulez bien, à l'article d'Antoine Calvino, Pulsation Techno. On est toujours au milieu des années 80. Au même moment, la house apparaît dans les clubs homosexuels de la communauté noire de Chicago et New York. La house, cette cousine dérivée de la disco, est désignée également par commodité sous le vocable plus général de techno. Ses premiers tubes emblématiques, Promised Land de Joe Smooth, House Nation de Marshall Jefferson et Can You Feel It de Larry Heard sont chantés et évoquent l'idée d'un paradis où chacun vivrait en harmonie, sans distinction de couleur, de religion, de genre et de préférence sexuelle. On parlait de communauté homosexuelle, de house music, de club. Et tu nous as choisi, Bastien, This Is Acid de Maurice.
Un des morceaux emblématiques de la house dite acid. C'est surtout le public qui a inventé le mot acid house aux États-Unis lors d'un test du morceau de Future, DJ Pierre et Spunk qui ont créé, en fait, par une erreur de manipulation d'une TB-303 des
Bottom Rhythm.
Voilà, par erreur de manipulation, enfin de détournement un peu, ce son acide, et ils l'ont testé sans savoir que c'était acide. Enfin, et c'est le public qui dit waouh, this acid track. Donc ça s'appelle Acid Track. C'est le public qui a lancé ce mouvement-là, en fait, hein, dans les quelques boîtes minoritaires de New York et de Chicago. Et puis après, bah, l'Acid House est arrivé en Angleterre. Et ça a été une révolution.
Tu as mentionné un outil essentiel dans cette histoire des musiques électroniques, c'est la boîte à rythme. Et tu en as mentionné une légendaire, la TB-303, il y a la 707.
9,
Le fabricant de boîtes à rythme et d'instruments de musique, Roland, avait sorti ses TB-707, 303, etc. Et les musiciens de l'époque les avaient pas trouvés terribles. Et c'était des instruments qui se sont retrouvés assez rapidement soldés deuxième main dans les magasins de musique, et que les gens qui ont inventé la house music n'avaient pas beaucoup d'argent, comme ceux d'Underground Resistance dont tu parlais tout à l'heure. Ils étaient complètement fauchés, et en récupérant ces boîtes à rythme et ces boîtes à basse has-been qui avaient été boudées par les musiciens des années 80, ils ont inventé la musique house music.
En fait, qui a inventé ça, hein. C'est japonais au final.
Ces boîtes à rythme, elles étaient boudées, elles étaient complètement has-been, elles étaient soldées, vraiment, moi j'en ai acheté une pour 2 francs 6 sous à la fin des années 80, et je suis amusé quand je regarde le cours que ça a sur internet aujourd'hui. C'est des instruments qui ont pris une cote incroyable. Donc la boîte à rythme, outil essentiel de cette culture, quoi.
C'est des instruments qui seront immortels.
De la fin des années 80. Et pour illustrer l'article, Bastien, tu as choisi ce nouveau titre, Voodoo Ray, par A Guy Called Gerald.
Ouais, morceau emblématique de l'acid house en Angleterre à la fin des années 80, on est en 89 précisément. C'est quand même assez dingue que ce morceau est resté assez longtemps dans les charts dance en Angleterre. Et les gens écoutaient ça en radio, ils s'attendaient à un truc nouveau, et ça les a intéressés au fur et à mesure de voir qu'il y avait des raves qui étaient totalement illégales à Londres, à Manchester, à Liverpool, à Brighton, grâce à des morceaux comme ça qui sont rentrés, peut-être par erreur,
à la radio.
Ça a donné des perspectives pour ces jeunes-là de guetter au fur et à mesure des waves qui étaient totalement illégales. De toute façon, c'était le jeu du chat à la souris avec les flics, donc voilà quoi. Au fur et à mesure, ils ont peut-être changé. Enfin, c'est la bleep musique, les sons bleep, une musique hyper simple mais nouvelle.
Et le titre, on le rappelle, c'est Voodoo Ray. Quand la techno quitte les États-Unis, où son audience reste confidentielle, pour exploser en Europe, le passage de relais s'effectue d'abord au Royaume-Uni en 1988. Les murs d'enceinte apparaissent au même moment que l'ecstasy, qui donne une nouvelle dimension au phénomène. Encore forcés par la législation de fermer à 2h du matin, les clubs voient leur public en pleine ébullition les délaisser pour les rêves, organisés au nez et à la barbe des autorités en pleine campagne ou dans des entrepôts désaffectés. L'essence de la rave, c'était la liberté, raconte le DJ Laurent Garnier. La volonté de danser sur de la musique jusqu'à plus soif. Un raz-de-marée emporte la jeunesse britannique. Toutes les classes sociales se mêlent dans un élan bientôt surnommé le deuxième Summer of Love, en référence au Flower Power de San Francisco en 1967.
Folie des fleurs, et vive le flower power. jour où je veux te parler, je t'offre une fleur et je le fais. Les bleus, les jaunes, les vertes et les roses, le jasmin, le lilas et la rose sont notre unique force de frappe. Nous avons des fleurs pour ma frappe.
Flower Power des Hamsters en 1967 à la révolution Acid House et Techno des années 80, des USA via l'Angleterre, la pulsation techno s'abat sur l'Europe du début des années 90 et l'un de ses pionniers français est le DJ Laurent Garnier.
Il a démarré à mixer en Angleterre, non pas en France en premier. Il s'est fait toute sa culture en Angleterre. Garnier, personnage incontournable de la musique électronique, il a créé FCOM avec Eric Morand, il a découvert Monsieur Oiseau pour le grand public, et ça c'est pour FCOM, c'était super bien, il a une reconnaissance forte pour le label et dans le monde entier. Il prépare son film, sur ça un petit peu sa vie, ça embriquera en fait sur le bouquin Electrochoc.
Je reviens à ce personnage qui est le DJ, là on parle de Laurent Garnier, c'est un disc jockey, un DJ. C'est le gars qui choisit les bons morceaux au bon moment pour faire danser du public dans une fête. Mais est-ce que Laurent Garnier, il est l'auteur de la musique qui passe sur ses galettes? Est-ce que c'est lui, sur son ordinateur, qui l'a composée? Ou c'est un autre artiste qui a fabriqué cette galette et c'est Garnier qui choisit de jouer la musique d'un autre artiste?
Ah bah c'est une sélection de morceaux qui choisit bien comme il faut pour telle ou telle soirée.
Qui les fait ces morceaux?
Un autre artiste. C'est juste passer des disques et puis mais par contre essayer de créer une histoire derrière, des ruptures, comme dans le cinéma quoi, faire un récit. C'est vrai que ça demande pas mal de temps, une très très bonne connaissance musicale et puis connaître le passé aussi de la musique.
Et être attentif au public qui danse, enfin voilà, essayer de comprendre ce que les gens ont envie d'entendre pour danser quoi.
Ça. C'est des trucs parfois qui s'expliquent pas sur tel ou tel moment, il y a une genre d'euphorie. Quoi.
Mystérieux métier de DJ. On reprend la lecture de notre article du Monde Diplomatique. On est toujours à la fin des années 80 en Angleterre. Et donc avec l'émergence de ces musiques électroniques, house, techno, des tribus qui s'ignoraient habituellement, les punks, les rastas, les rockers, même les hooligans, découvrent le sentiment de partager quelque chose, donc c'est cette musique-là. Il ne s'agit plus de tenter de changer le monde, comme à Woodstock, mais plus modestement de construire une parenthèse enchantée, un jardin d'Éden, dans le contexte tourmenté des années Thatcher. En 1994, poussé par une campagne anti-drogue massive des tabloïds, le Parlement britannique vote le Criminal Justice and Public Order Act qui interdit à plus de 100 personnes de se regrouper spontanément pour écouter de la musique répétitive. Les organisateurs doivent bientôt jeter l'éponge ou se réfugier sur le continent, tandis que les clubs obtiennent l'autorisation d'ouvrir plus tard, se développent et récupèrent le mouvement qu'ils commercialisent à outrance, attirant le tout venant grâce à la publicité et à des DJ érigés en vedettes. Alors là, Bastien, on arrive à un stade de l'histoire techno. C'est que cette musique du ghetto, là, cette musique de la rue, cette musique qui se danse dans des fêtes clandestines, dans des entrepôts ou je sais pas où, d'un seul coup, évidemment, est interdite. On en fait un produit commercial, on la vend maintenant dans des clubs, dans des dancing, avec les drogues qui vont avec. Et on assiste aussi à un autre phénomène, c'est celui de la starisation du DJ. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple des gars d'Underground Resistance, You Are, qui mixaient avec des cagoules dans le noir, on ne savait pas qu'ils étaient noirs sous leurs cagoules, donc anonymat complet, en fait le DJ jusqu'à présent n'était pas le centre d'intérêt, hein. Comme le disait l'article, le centre d'intérêt bah, c'était le public qui dansait et le DJ pouvait être dans l'ombre. Là, on arrive à la starisation. C'est la préhistoire des choses comme David Guetta, quoi. C'est d'un seul coup, on met un nom et un visage sur cette musique qui normalement était anti-commercial, anti-establishment, anti-système.
Il y a un côté un peu schizophrène dans tout ça, ouais. Parce que bon, l'électronique, ça devient comme le rock, là. Ça fait 3 décennies, donc.
Revenons-en à la préhistoire de cette musique-là, en tout cas en ce qui concerne la France, toujours avec l'article d'Antoine Calvino.
«
Au début des années 90, nous dit Calvino, la fièvre techno s'empare également de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, où le contexte de la réunification lui donne une signification particulière. À Berlin-Est, la chute du mur ouvre des quartiers entiers dont les bâtiments monumentaux deviennent le lieu d'innombrables fêtes en dehors de tout contrôle de l'État. Les jeunesses de l'Est et de l'Ouest vivent concrètement leur rapprochement sur les pistes de danse. Ce cliché de l'été de l'amour de 1991 est tout simplement vrai, explique la rêveuse Annie Lloyd. Je n'avais jamais vécu un truc de ce genre. Nous avions la sensation que nous faisions bouger les choses. C'est d'ailleurs valable pour la réunification de l'Est et de l'Ouest qui avait réellement lieu dans l'underground, dans les clubs, mais nulle part ailleurs. On est toujours dans les années 90. Au même moment, le rêve techno prend encore une autre forme à Goa.
Touristes perdus et transhumants, 10 000 jeunes environ, européens et américains en rupture de société, ont recréé sur les plages paresseuses de Goa une vie tribale d'un autre âge. Par la drogue, ils s'évadent d'un monde d'opulence qu'ils ont volontairement quitté pour des rêves artificiels. Côtoyant sans la subir, l'effroyable réalité de la misère, la détresse de ceux qui n'ont pas choisi de survivre ou de mourir sur les trottoirs de Calcutta.
La Mecque indienne des hippies depuis les années 60 attire une techno plus mélodique née à Francfort, la trance inspirée des mélodies du rock progressif. Favorisée par la douceur du climat, la vie bon marché, l'abondance de drogue et la permissivité des autorités, le phénomène prend de l'ampleur entre île des pirates et héritage anticonformiste. Mais l'afflux de milliers de touristes, appâtés par les reportages à scandale, pervertit l'esprit communautaire et provoque des débordements qui finissent par alerter la police. Si bien qu'à partir de 2002, les fêtes nocturnes sont interdites.
La drogue sur les visages laisse des traces, comme sur celui de François qui n'a pas encore 25 ans.
Quelle drogue, si ça vous permet de développer vos facultés
Des musiques prohibées, des musiques interdites, comme c'est le cas en Europe, mais on vient de le voir aussi à Goa. Et pour illustrer cette période de l'histoire de la musique techno, Bastien, tu as choisi Ulysse par Transwave.
Un morceau que j'ai trouvé sur des compilations de trance quand c'est arrivé en France et que le grand public, parce que moi j'ai découvert la trance Goa cette période-là avec Man With No Name ou Hallucinator. J'aurais pu choisir un morceau de System 7 ou même le morceau E2E4 d'un des membres de Ashra Temple. Autant être honnête, c'est vrai que j'ai choisi un morceau qui est assez commercial pour la Goa. Mais c'était vraiment le son de l'époque.
À nouveau une référence à l'Allemagne, une fois de plus, à musique électronique. Là, on a parlé de Francfort, rock progressif.
En Allemagne, il y a eu pas mal de groupes, enfin, Ashra Temple, Kahn, Manuel Gotching, si je vous conseille vraiment, enfin, le morceau emblématique de la trance, qui dure plus d'une heure, c'est le E2, E4, E2, E4 en français, de Manuel Gotching, qui est une pièce de 60 minutes, superbe, sublime, c'est le genre de morceau ambiante. Qui arrive à la transe au fur et à mesure, qui a été enregistré d'ailleurs en une nuit par l'artiste.
Si en France, les rêves des débuts ont échappé au radar des autorités, celle organisée au printemps 1993 à la Villette donne l'occasion à une journaliste d'évoquer dans un article resté célèbre ces milliers de jeunes qui se droguent à l'acide, qui se détruisent. Et personne ne le dit, personne ne le sait, personne ne fait rien.
Hier, on a parlé de ces autoroutes de la drogue dont la porte d'entrée en Europe est bien souvent aux Pays-Bas. Aujourd'hui, les victimes.
TF1, 18 octobre 1994.
Les plus vulnérables, eh bien, c'est sans doute nos enfants. Et un phénomène inquiétant est en train de se développer. Des soirées musicales qui se développent notamment dans la région parisienne. Et derrière ces soirées, il y a un véritable marché de la drogue. Ces soirées s'appellent les soirées rêves.
Psychiatrique partie, rendez-vous à partir de 23h30 à la gare RER de Massy-Balézot.
Un répondeur en guise d'informateur et tous les initiés convergent vers ce lieu tenu secret jusqu'au dernier moment.
De nombreux autres titres de presse embrayent et le ministère de l'Intérieur diffuse 2 ans plus tard une circulaire intitulée « Les rêves partis des soirées à haut risque » qui enjoint au préfet de tout mettre en œuvre pour empêcher leur tenue. En interdisant l'accès à la localisation de salles et parfois en interrompant les festivités par la force, les autorités modifient le visage des soirées techno.
Et pendant ce temps-là, toute une contre-culture se lève la tête pour créer des nouvelles perspectives, pour faire des raves ou des teufs. Parce que quand les Spirit Drive sont arrivés en France, c'est vrai qu'ils ont ramené ce côté rave hardcore que connaissaient pas trop les Français, je pense. Ça a fait les hérétiques.
Alors on va parler de Spiritual Tribe et d'hérétiques, mais finalement, j'étais en Angleterre au tout début des années 90. Ça m'est arrivé de tomber dans des soirées. Quand t'as été sevré aux Beatles et aux Rolling Stones, si tu veux, ça te fait bizarre. Quand tu tombes sur des furieux en train de danser sur ce qu'ils appelaient du gabber, c'est un truc épouvantable. Donc c'est très très fort et ça fait. Je me disais, pour supporter ce genre d'environnement sonore, il faut forcément être défoncé à quelque chose parce que à l'état naturel, je vous avoue que c'est complètement intenable.
Je sais pas. C'est vrai que ouais, tenir 9 heures comme ça, c'est à un moment donné, oui, ça doit être super tendu quoi.
Que nous dit toujours Antoine Calvino dans son article, un collectif londonien chassé de son pays, les Spiral Tribe, montre la voie en organisant hors des villes et de tout cadre légal des free parties, c'est-à-dire des fêtes libres et gratuites où les participants sont vêtus de kaki et écoutent une techno plus dure. Comme l'écrit le sociologue Lionel Pourteau, à partir du moment où une opposition institutionnelle s'est créée et où la fête techno a cherché à se maintenir contre les pressions, elle a bénéficié de l'aura de la transgression et de la dimension libertaire. Elle prend même parfois une allure de guérilla. En conséquence, les aspects initialement secondaires engendrés par l'illégalité des rêves devinrent primordiaux.
Quoi, tout simplement. C'est une nécessité de faire des soirées, des teufs tellement illégales, quoi. Parce que, voilà, quoi. Et après, c'est à ce moment-là, ensuite, en France, les raves beaucoup plus institutionnalisés sont arrivés, soutenus par des marques de bière, et puis...
Si je me souviens bien, l'argument invoqué par les médias, par les autorités dans les années 90, etc., c'était que les raves, c'était pas bien parce qu'on y consommait des drogues.
Une bonne partie c'est ça, hein, mais sinon en discothèque, pareil, une consommation de drogue, des trucs, donc c'est que c'est tellement lâche de la part des médias d'avoir dit ça, quoi, tout simplement. Le problème c'est que ça restait dans la tête des gens. Hein. Puis vu que c'est un mouvement qui est jeune, par rapport à d'autres styles ou qu'à 30 ans quoi.
En tout cas je le redis, hein, il existe des gens qui adorent la musique électronique et qui ne se sont jamais drogués de leur vie. Toi t'as jamais dépassé le cap de la verveine quoi.
C'est ça exactement, vraiment, pas de drogue. Non. La musique, là, trouver le bonheur sur ça, quoi.
En pleine fête de la musique, les responsables politiques écrivent une partition cacophonique pour ou contre une législation des rêves partis.
France 2, 2001.
La proposition du RPR Thierry Mariani, un instant relayée par le ministère de l'Intérieur, est apparue comme liberticide pour les jeunes raveurs. Et la gauche, ainsi que Lionel Jospin, cherchent maintenant prudemment une voie de sortie.
Pas question de légiférer tout de suite, il faut d'abord dialoguer et trouver un compromis entre liberté et sécurité. À l'origine de ce charivari, un homme, Thierry Mariani, député RPR. Le 27 avril, son amendement qui prône un meilleur contrôle des rêves partis est adopté grâce, surprise, aux voix de gauche. Mieux encore, un mois plus tard, l'amendement est soutenu par le ministre socialiste de l'Intérieur. Daniel Vaillant approuve ainsi une législation beaucoup plus répressive et un véritable encadrement.
Il n'est de liberté véritable sans contraintes et sans règles. Respect des choses et respect des autres.
Mais hier, surprenante volte-face. Les députés PS désavouent le ministre en refusant de légiférer sur les rêves partis. Ils se prononcent pour le statu quo, c'est-à-dire pour une relative liberté sous la vigilance des préfets. Pourquoi donc un tel revirement? Selon le député Thierry Mariani, il s'agit avant tout de ne pas perdre un certain électorat.
Je crois qu'en politique, certains sont un peu malades de la DHEA, c'est-à-dire qu'ils doivent se lever tous les matins en disant pour gagner les élections, qu'est-ce qu'on peut faire pour paraître aussi jeune que les jeunes et plus jeune que les jeunes.
À la fronde des députés socialistes s'ajoute une division au sein même du gouvernement, puisque le ministre de l'Éducation nationale, lui non plus, ne veut pas légiférer.
Moi je suis favorable toujours, sur ce sujet comme sur tant d'autres, non pas à des textes, mais à un dialogue et à une charte.
On en vient toujours à la répression et à l'article. Contrainte de vivre en marge de la société, la scène des fêtes libres théorise a posteriori sa posture. Elle revendique l'autogestion dans une zone autonome temporaire. Concept inventé en 1990 par l'écrivain américain Hakim Bey, qui s'inspirait des utopies pirates du XVIIIe siècle. En 2001, un article de la loi sur la sécurité quotidienne, LSQ, voté en France sur le modèle britannique, donne aux autorités les moyens d'empêcher les rassemblements illégaux les plus importants. Ceux-ci sont déjà submergés par les badauds que les médias ont attirés pour des raisons douteuses, en parlant avec constance de fête de la drogue.
Manu, arrête de me saouler!
Alors Bastien, la France a longtemps été à la traîne, tu le disais, en matière de musique électronique. Et puis il y a quand même un retard qui a été comblé. Et là, il faut parler d'un collectif historique et incontournable dans l'histoire de la musique électronique en France. C'est les Hérétiques, Hérétiques System. C'est un peu les Spiral Tribe français, quoi.
Voilà, c'est ça. Ils ont commencé au moment où les Spiral Tribe sont arrivés en France, donc...
Une odyssée extraordinaire qu'on peut voir dans un documentaire qui leur est consacré.
We Are The Dream, qui est sorti en DVD avec la BO.
Oui. C'est aussi le morceau qu'on est en train d'écouter. Ouais. Signal électrique par le Hérétic System, We Are The Dream. Ce qui est frappant dans le documentaire, quand on le voit, c'est l'engagement, presque la foi, que ces gens ont dans cette musique. C'est d'ailleurs une odyssée qui va avoir un aspect dramatique, parce que je crois qu'il y a des gens qui vont mourir. Ils vivent dans des conditions extrêmement précaires, complètement dédiées à ces sensations de liberté que procure la diffusion de cette musique électronique.
Ils vivaient pour ça, tout simplement. Ils vivaient pour créer une autre...
Ça veut dire que ces gens-là, c'est des hippies électroniques. Là, on parlait tout à l'heure de Flower Power de San Francisco 1967. Est-ce qu'on peut dire que les Hérétiques étaient des hippies électroniques?
Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais, complètement, ouais.
C'est le dernier paragraphe de cet article Pulsation Techno dans Le Monde Diplomatique de juin 2014. La fin de ce papier d'Antoine Calvino qui demande... Quel avenir a aujourd'hui l'utopie techno ? Si l'authenticité des rassemblements s'est diluée au contact du grand public, le cœur de la scène reste fidèle aux valeurs qui l'ont fondée. Le milieu underground britannique continue de contourner le Criminal Justice and Public Order Act et demande son abrogation. L'Allemagne, et Berlin en particulier, comptent toujours quantité d'organisateurs fervents qui mettent la passion et non le profit au centre de leur démarche. La France, quant à elle, voit l'essentiel de ses rêves se transformer en festivals, souvent de qualité, mais d'essence moins libertaire. Enfin, certains événements exceptionnels, généralement discrets, à l'image du Fusion, ce festival donc en nord de Berlin qui a lieu fin juin, parviennent à incarner chaque année, pendant quelques jours, ce monde meilleur vers lequel a toujours tendu la fête techno.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin l'odieux piratage, le sampling verbal de cet article du Monde Diplomatique. Merci à Antoine Calvino, son auteur, à qui nous n'avons pas demandé sa permission pour l'exploiter. C'est aussi ça, hein, l'esprit pirato-libertaire. Merci aussi à notre prof d'histoire Cédric et à Bastien, alias BSN, DJ chroniqueur, à lire sur le webzine juggerrecords.com. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et plein d'autres sur le www.polemix.com. Et on se retrouve aussi très bientôt sur cette même antenne. Salut !
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.